Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité « Qu'en pensez-vous? » Une émission où on analyse, on décortique et on donne notre opinion sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, comme à chaque semaine, un panéliste de renom, quelqu'un d'extraordinaire. Et cette semaine, on a l'inimitable Richard Hébert. Bonjour, M. Hébert.
Bonjour, M. Pierre. Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Oui, je suis content de te voir.
Oui, merci. Merci de venir remplacer comme ça à brûle pour point quand on a Jules ou Joannie.
Ça me fait toujours plaisir. Merci de penser à moi.
On va se lancer rapidement. Oui. Complexe Aquagym, et qu'on en a parlé, et qu'on a eu des problèmes avec ça. Et là, finalement, on ouvre ça cette semaine. Ouais. Quand toi, tu étais maire, tu as réalisé des projets, hein, je pense entre autres à la caserne, des choses comme ça. Ouais. Pour l'administration municipale, là, ça doit être vraiment valorisant voir un projet comme ça arriver à terme.
Je voudrais commencer en disant que c'est un projet qui était longuement désiré. Les gens le souhaitaient. C'était l'équipement le plus utilisé de tout le système des loisirs de Dolbeau-Mistassini. Et il y a une genèse à ça, il y a un début. Hein. Moi, quand je suis arrivé à la mairie en 2013, à une question de Lou Potvin, qui était pour Le Quotidien à l'époque, il me dit « Monsieur Hébert, vous savez, la piscine, elle va pas bien, elle fuit, il y a de l'eau qui coule, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? » Je lui dis « Tu veux-tu une réponse de politicien, une vraie réponse? » Ben là, il dit « Écoutez, je suis ici pour avoir la réponse. » J'ai dit « Elle finit, la piscine. Elle finit raide. Pas compliqué. » Fait que tout de suite, moi, j'ai donné le ton. C'est sûr que le conseil, je n'avais pas dit d'avance ce que je pensais, mais ouais. À cette époque-là, ils ont dit « bon, mais coudonc ». Fait que là, c'est là que le processus s'est installé tranquillement, pas vite. La recherche des subventions, les contacts, les choses. Et quand ça s'est commencé à se mettre en place, moi, je quittais la politique municipale, puis là, on y arrivait. Écoute, c'est un projet qui est haletant, qui est sûrement un bon challenge pour le conseil qui est en place, conseil qui est uni, qui est derrière le maire. Donc, même s'il y a eu des difficultés au niveau de l'argent, qu'est-ce que ça coûtait. Et vous savez pourquoi ça a coûté plus cher? C'est que quand ce sont... D'abord, l'aréna de Dolbeau, pour votre information, c'est un ancien entrepôt de papier pour la compagnie Lake Changeant Paper and Paper and Stuff, you know. Je les manque un peu. Il n'y avait même pas de toit dessus.
OK.
Puis, ils mettaient des roules, des ballots. Puis, à un moment donné, je ne me rappelle plus de son nom, il jouait M. Ross. Il m'avait expliqué, il dit, la première partie de hockey qu'on a joué, les Castors de Dolbeau, il n'y avait même pas de toit. Et quand on a fait les études de sol pour pouvoir dire où est-ce qu'on allait construire le nouveau complexe, se sont aperçus qu'il y avait des quantités incommensurables de copeaux. Parce que la compagnie allait jeter les copeaux dans cette chose-là. Avec le temps, ils ont renterré de terre. Quand ils sont aperçus que le sol n'était pas favorable pour recevoir une structure semblable, c'est là que les coûts ont explosé. C'est ça qui a fait, entre autres, une partie de l'augmentation. Mais la Ville ne s'est pas laissée abattre par une augmentation de près de 4 millions de dollars. Ils se sont retroussés les manches. On avait l'expérience avec la salle de spectacle. Ils ont décidé de faire une campagne de financement. Moi, je leur lève mon chapeau. Je pensais que rendu à 1 million, c'était de l'argent à Moses, mais ils se sont rendus jusqu'à 1 500 000 dollars. Les particuliers ont donné, les compagnies ont donné. Puis c'est un effort collectif. Oui, puis en plus, ça va servir à toute la MRC Marie-Chapdelaine qui, lui, a déposé un montant important pour le fonctionnement de cet équipement-là, qui est extraordinaire. Moi, j'ai hâte à l'ouverture. Il va avoir lieu très bientôt. Au moment où on se parle, où on enregistre cette émission-là, ça ouvre aujourd'hui.
Ouais.
Et puis, je suis allé faire un tour tout à l'heure pour voir aux alentours. Déjà, on voit que les gens sont impatients de mettre leur braillet et de...
Oui, mais nous, je sais que l'équipe est allée voir durant la construction. On a eu accès, puis écoute,
c'est très beau.
Oui, bien, je pense que ça va faire du bien, un peu comme la salle de spectacle.
Oui.
C'est important, je pense, pour une collectivité d'avoir des infrastructures de qualité.
La fierté aussi d'avoir ces équipements-là. Et en plus, c'est que ça attire des gens à venir demeurer dans la municipalité centre qui est Dolbeau-Mistassini.
Ouais. Parlons d'un sujet un peu moins rose, plutôt bleu. On va parler de l'industrie du bleuet.
Ouais.
C'est un sujet, là, c'est le gros sujet cette semaine. Parce que là, il y a des gens qui voudraient peut-être aller faire transformer les bleuets à l'extérieur de la région quand on a les outils ici pour les transformer. Est-ce qu'on produit trop de bleuets pour notre capacité à transformer? Est-ce qu'il y a... J'ai de la misère parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. À tous les années,
ça revient.
C'est toujours la même chose. On parle de manque de transparence, on parle du coût, on parle des bénéfices. C'est normal, c'est des gens d'affaires qui veulent faire de l'argent.
Ouais.
C'est quoi ton analyse de cette problématique-là?
Écoute, bon, tu l'as dit, c'est un problème qui est récurrent. Le bleuet, c'est la manne bleue. Hein?
Ouais.
Puis quand les champs sont préparés, ça pousse, puis quand les conditions sont bonnes. Mais les conditions sont jamais vraiment pareilles. Ça varie. Il y a de plus en plus de gens qui cueillent du bleuet. Il y a de plus en plus de propriétaires, de petits producteurs.
Ouais, quand c'était la mode, tout le monde voulait avoir une bleuetière.
Tout le monde voulait avoir quasiment comme une cabane à patates. Ouais. On se lance là-dedans. On se lance un dépanneur. On se lance là-dedans. C'est vrai que l'appât du gain est important là-dedans. C'est facile à ramasser d'une certaine manière. Aujourd'hui, avec les équipements mécaniques, on ramasse ça la nuit maintenant hein, avec ces équipements-là parce que quand tu allumes les lumières sur le petit camion, on voit tout. Ça scintille comme des yeux d'animaux qu'on voit sur le bord de la rue. C'est assez particulier. Puis là où j'en veux en venir, c'est que beaucoup de gens disent « on va faire de l'argent avec ça ». Puis il y a toujours un plus gros poisson dans l'aquarium que les autres. Puis c'est ça qui fait un petit peu l'histoire à mon point de vue. Il y a, une centaine de producteurs. Il y en a deux ou trois qui sont plus importants, qui eux se sont installés, c'est Bleuets du Nord et Bleuets Sauvages, qui se sont installés des usines de transformation pour les congeler. Puis en même temps, bien, ils ont dit aux autres, bien, on va vous congeler le vôtre. Ouais. Fait qu'eux, ils contrôlent un peu, ils contrôlent pas le prix parce que c'est la régie du marché du bleuet qui contrôle le prix. Mais les plus petits producteurs ont toujours l'impression, à tort ou à raison, de ne pas avoir suffisamment sur le coût du bleuet. On sait à chaque année, là, c'est quasiment comme l'indice du prix du pétrole, ça. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'il va être le prix? Quand c'est à 1 $, le monde font beaucoup de sous. On parlait un peu avant l'émission. La régie de l'aéroport ici à Dolbeau, Mistassini, Saint-Méthode, etc., s'il n'y avait pas de bleuet autour, elle serait fermée. Là. Ouais. C'est avec ça qu'on réussit, mec. Quand on ramasse, je ne sais pas moi, 1 million de livres, je dis des chiffres à peu près, puis qui est à 1 $ la livre, ça fait des sous. Perfect. Quand il tombe à 40 cents, c'est moins payant. Bref, il y a des bonnes années, puis il y a des moins bonnes années. Puis là, j'arrive au cœur du problème. Le préfet Simard et aussi le préfet Baillargeon là, de Yannick à du côté de la domaine du roi, et Luc ici, du côté de Maria Chapdelaine. Eux autres ne sont pas d'accord, puis moi, je suis d'accord avec leur point de vue, de prendre une ressource d'ici pour aller faire congeler ailleurs quand tu as les installations ici. Là, on dirait qu'il y a comme une guerre de point de vue dans l'histoire. Le syndicat des Bleuets, présentement, est représenté par une personne qu'on voit souvent sur la sellette parce qu'il n'est pas d'accord avec le prix. Il semble avoir une...
Et il demande souvent la transparence. Ouvrez vos livres, on veut savoir. Et puis on dirait que les ceux qui peuvent le congeler sont pas prêts à faire ça. Est-ce qu'il y a... Je sais pas.
C'est parce que c'est une question de marché. Ouais. S'ils ouvrent trop vite le livre ou ce qu'ils disent, ou s'ils disent quel est le prix, ils peuvent pas le dire d'avance. Ils donnent un prix en décollant en disant ça va osciller autour d'eux. Puis vers la fin de la saison, ils se rendent compte si c'est plus ou c'est moins. Puis moi, j'en ai contre personne dans cette affaire-là. Tu sais, il y a une nouvelle congélerie qui est en place, qui s'appelle maintenant Héritier, dans le secteur de Normandin, qui ont voulu eux autres aussi le transformer, le bleuet. Ils font face à des problèmes de personnel, manque de personnel, un peu comme les serres toundra. Oui. Hein, les gens disent « Ah, ben moi, ça ne me tente pas d'aller travailler. » Et là, il y aurait la possibilité, d'après moi, de pouvoir le faire, encore une fois, transformer dans les usines existantes. Puis là, il y a comme un entêtement. Ben non, on ne va pas le faire transformer ici dans la région, on va aller à Sainte-Eulalie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les ressources d'ici peuvent être transformées ici pour que l'argent se dépense ici.
Bien oui, c'est ça.
Puis c'est là où ce que les gens ils peuvent pas tout à fait être d'accord avec le point de vue. Puis je comprends le président du syndicat, puis je comprends le président du Grand Bleu qui se sont formés une coopérative, puis on dit on va s'en faire une usine de transformation. Malheureusement, les autres sont arrivés plus vite, congélés héritiers. Alors je me dis, il n'y aurait pas un mariage à faire, moi, entre Grand Bleu, pardon, le syndicat des Bleuets, puis qu'ils puissent aller congeler du côté de Normandin, ben, s'ils ne sont pas d'accord avec les deux principaux.
Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait, faut se parler.
C'est très délicat parce que les bleuets, là, c'est comme la saison de la pêche dans les maritimes, c'est comme le homard. Tu sais, le homard, tu ne sais pas le prix en décollant. Ouais. Mais le bleuet, c'est une petite ressource qui... Ça part vite, ça.
Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on allait ramasser des bleuets dans le bois, puis on allait, il y avait un gros camion qui venait des États-Unis. Qui allait se parquer au dépanneur en bas de la côte, en montant vers Sainte-Marguerite.
Oui.
Et puis, 1,40. 1,40.
1,40 la livre.
Oui, mais c'est une autre époque.
Mais dans ce temps-là, le Chili n'en produisait pas.
La Chine n'en produisait pas.
Maintenant,
etc.
Tout le monde produit du bleuet parce qu'on sait les qualités antioxydants, etc., etc. Ils disent même que lorsqu'on mange du bleuet, on est des gens plus heureux.
Et voilà, pour ça qu'on est heureux, nous autres. restons dans l'agriculture. Il y aurait un projet de complexe céréricole à Dolbeau-Mistassini.
Ouais.
On est à l'étude, en fait, de la faisabilité de tout ça. Intéressant ou pas intéressant?
Très intéressant. Quelle belle idée. Moi,
moi je suis pour l'achat local.
Je félicite, je dis bravo à deux bras auprès du conseil de ville et son maire qui ont une idée vraiment fantastique de pouvoir offrir à la population d'aller faire pousser des légumes, été comme hiver, dans un endroit couvert. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une serre qui va permettre. Et en plus, les entreprises vont pouvoir y aller aussi. Je te donne un exemple, un restaurant du coin veut être bien décidé d'aller. Bon, c'est sûr que celui qui vend des pommes de salade qui viennent du Mexique, il va peut-être en vendre un petit peu moins parce que le gars du Lasphère, j'ai mis la fraîcheur, la traçabilité. Il va dire, tu as pris tes carottes, mais je l'ai pris dans la serre ici. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Deuxièmement, il semblerait qu'il pourrait le faire sur les terrains du Western où on a dégagé l'espace. Oui. C'est des terrains immenses. Puis en plus, Résolu se servirait de la cogénération pour envoyer de l'énergie, puis c'est à proximité. Écoute, c'est un projet, moi, ça m'emballe beaucoup. Je trouve ça le fun de pouvoir permettre à une population de s'impliquer, une implication citoyenne combinée avec un conseil de ville dynamique.
Bien, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans des villes, entre autres, comme Détroit, où on a, quand la ville est tombée en déchéance, les gens qui sont restés sur place ont commencé à produire beaucoup à l'intérieur, proche des marchés, parce que c'est une des problématiques environnementales. Ça fait partie de l'achat local. En tout cas, il y a vraiment... Moi, je trouve que c'est un beau projet et je propose comme nom les serres à WoWo. Parce que, comme on veut les faire sur les terrains, dans ces terrains du festival.
Ouais, il va rester de la place. Ils auront beau faire des grosses serres. Puis, tu sais, les jardins urbains, c'est très populaire. À l'époque où j'étais à la municipalité ici, on avait fait le projet de faire des plates-bandes où les gens pourraient aller consommer les plates-bandes.
Ouais, c'est un projet britannique qui est rendu partout à travers la planète.
Ouais, c'est bravo. Ouais. Bravo pour ce projet.
Oui, moi, en tout cas, j'espère que ça va fonctionner.
Oui.
Un sujet qui va... là, je vais te faire sortir de tes gonds parce que tu étais de tous les combats à ce niveau-là. Décentraliser les soins de santé. Ah, on l'a vu il y a longtemps, là, avec quand on a fait la centralisation, la création des CIUSSS, c'est un désastre. Je pense que tout le monde l'affirme haut et fort maintenant. comment on peut, après ça, partir de ces organes éléphantesques centralisés puis ramener du pouvoir, parce qu'on le sait, là, plus tu es proche du terrain, plus tu as accès au pouvoir, plus aux décisions, aux gens qui sont là, fait que tu gères plus des colonnes de chiffres, là, tu gères des vraies personnes, tu comprends les réalités terrain.
Il faut avoir passé du temps un petit peu, puis moi, dans la famille, il y a eu quelqu'un qui était malade chez nous, puis on a été beaucoup à l'hôpital cet été. Il faut voir ces hommes et ces femmes-là qui se démènent, qui s'arrachent le cœur, que quand ils veulent avoir une information, il faut qu'ils s'informent auprès de Chicoutimi. Puis j'ai rien contre Chicoutimi non plus. Écoute bien, la centralisation des pouvoirs par le délicat docteur Barrette, écoute, il a fait ça avec la délicatesse d'un pachyderme qui rentre d'un magasin de porcelaine. Mm. Ça a été mal fait. On peut quasiment qualifier ça d'une espèce de fiasco. Les ressources humaines ne savent plus où se tirer. Les gens s'en vont maintenant vers le privé payer mieux, dans des meilleures conditions. Écoute, la pandémie est en train de nous démontrer une chose, que ce système-là est à repenser puis à refaire. Puis lorsque, une autre image, Pierre, comment tu fais quand tu es local ici à Delbault-Mistassini d'avoir le contrôle sur ce qui se passe? Comment tu fais pour avoir le contrôle de la chaleur de ta maison quand tu as le thermostat à Québec? C'est incroyable d'avoir décentralisé. Ici, on avait la fondation, on avait un conseil d'administration formé de la société civile, des gens d'un peu partout qui étaient regroupés ensemble pour voir à la bonne marge de cet établissement-là. Parce que l'hôpital de Delbault-Mistassini, il nous appartient. C'est nous autres qui avons travaillé, puis c'est à nous. C'est pour ça que quand on se fait gérer d'une autre façon, l'histoire de OptiLab, moi, je me suis battu avec le conseil, puis on avait formé un comité pour dire, c'est pas vrai que les échantillons vont partir de Delbault-Mistassini pour aller à Chicoutimi. Le gars qui va avoir le résultat dans la journée, comment ça va faire? Même ceux-là de la Côte-Nord. C'est un ridicule criant. Donc, moi, je pense que la solution, c'est probablement de revenir à la simplicité du terrain et de dire, bien, l'hôpital de Delbault, là, vous allez avoir un budget X, vous allez gérer votre monde, puis tu vas savoir à qui t'as affaire. Moi, ma conjointe là, est en discussion présentement à cause de la pandémie. Bon, mais ils ont besoin de toutes sortes de personnel, ma soeur, tout le monde met du sien un peu dans la fête. Écoute, juste pour qu'elle soit engagée dans cette histoire-là, elle a fait affaire avec 8 personnes différentes. À chaque fois que ça apparaissait sur son écran, elle dit « Mais qui est cette personne? » Tu sais, à un moment donné, tu peux pas... Moi, quand les gens de la télévision communautaire m'appellent et qu'ils me disent « Viendrais-tu nous donner ton opinion? » Oui. Bon, mais je parle avec toi, puis ça y est. Mais s'il fallait que je fasse le tour de Pierre-Jean-Jacques, regarde, je vais rester chez nous.
Oui, mais
c'est... Bon, ben, c'est un problème, puis je pense qu'on doit revenir à l'essence même, c'est-à-dire donner des soins de proximité aux gens qui nous entourent.
Parce que quand on a fait cette réforme-là, un des objectifs, c'était de diminuer le coût du système de santé. Bon, le coût du système de santé n'a pas diminué, mais nos services sont plus coûteux que ça, là, surtout dans des secteurs là, où on a perdu beaucoup de pouvoir. Ouais. Comment réussir à décentraliser sans augmenter la facture? Parce que techniquement, ça coûte plus cher quand tu as plus de services proches des gens. Mais moi, je suis complètement d'accord. Mais il y a cette mécanique-là financière qu'il faut gérer aussi.
Tu as raison. Mais lorsqu'il s'agit de donner des soins à des gens qui sont en fin de vie ou qui sont en difficulté ou qui accouchent, on avait parlé dans
un... Oui. Hein?
Là, c'est plus une question de chiffres. Là.
Je suis d'accord.
On peut-tu mettre de l'humanité un peu dans l'histoire? Ouais. C'est des soins de santé. Avant ça, c'était les hôtels Dieu, tu sais, puis la religion était là-dedans. Non, mais ça marchait comme ça parce que c'était des soins qu'on donnait aux malades. Tu sais. Mais là, on est rendu d'une espèce d'usine où les gens, ça rentre. C'est une colonne de chiffres, comme tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut remettre un peu de l'humain dans l'histoire puis faire confiance aux gens qui sont ici. Ils connaissent leur travail.
Oui, faire confiance aux gens. Oui. Leur donner la possibilité de s'exprimer, de faire les choses différemment.
On n'a pas réglé le problème, au moins.
Oui, clairement. La ville de Normandin,
ouais.
Une nouvelle politique d'accueil des immigrants. On sait qu'à cause des Sartundra, il y a plus d'immigration qui vient dans la région, mais que l'arrivée des Sartundra manque de personnel. On a vu. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que des fois, dans les petites communautés, puis c'est pas. Moi, je viens d'une petite communauté, j'en suis très fier. Des fois, quand on a moins eu accès à l'étranger, au monde, etc., des fois, ça peut faire peur. Puis je pense que. Puis au contraire, je pense que c'est cette ouverture-là qui va diminuer la peur, puis il va aider les gens à se faire intégrer. Moi, je trouve que c'est une bonne politique.
Écoute, Normandin est un leader dans plusieurs petits sujets ces temps-ci, puis c'est bravo. Félicitations au conseil de ville et Mario Fortin, son maire. Écoute, eux autres, ils ont dit, bon, ben, le presbytère, on va s'en servir pour accueillir les gens, c'est des Guatémaltèques, si je ne me trompe pas. L'épicerie du coin, qui est le IGA, ils ont mis des rangées de produits qui s'adressent à ces gens-là.
Ouais.
Je veux dire, on n'a pas les mêmes habitudes culinaires, alimentaires, etc. Fait que je pense que la chose la plus importante, c'est si on veut avoir un immigrant qui va venir travailler chez nous, il faut être capable de l'accueillir correctement.
Ouais.
Ça passe par des soins, comme je disais, alimentaires, des soins de santé, un interprète, quelqu'un qui est capable de parler la même langue.
Puis un réseau social.
Oui.
Parce que moi, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup avec les étudiants étrangers dans mon collège. Oui. Puis souvent, on me disait, ah, vous êtes fin les Québécois, mais ça finit à 5 heures. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que quand tu es obligé, dans le travail, à l'école, tout va bien, mais le soir, ces gens-là se retrouvaient souvent seuls. Oui. Ces réseaux sociaux-là sont tellement importants, essentiels, primordiaux pour réussir, je pense, une intégration.
Tu sais, quand il y a eu les gens du Cambodge, Laos, ces affaires-là, il y a plusieurs années, les
boat
people, ça fait longtemps de ça, il y en avait à Saint-Eugène, il y en avait un petit peu partout, il y en avait à Dolbeau-Mistassini. Ils étaient un petit peu laissés à eux-mêmes. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis. Mais si on peut imaginer dans le futur que des gens d'Amérique du Sud, des gens de partout, peu importe, qui viennent s'établir, tu sais, je veux dire, ils peuvent peut-être bien refaire le village de Saint-Thomas-du-Dîme ou de Saint-Edmond-les-Plaines. Tu sais, une maison peut avoir ça pour 45 000 piastres, je veux dire, c'est extraordinaire. Puis là, ils pourraient amener les enfants, la mère, etc. Parce que là, souvent, c'est juste eux autres qui viennent, ils repartent, ils reviennent. Il faut créer, c'est un peu une forme d'immigration, mais pour que les gens, ils s'établissent, qu'ils arrêtent de se promener, puis qu'on ait des amis de différentes couleurs et de différentes nationalités.
Bien, parce que la diversité, c'est tellement une force en collectivité, on est capable de l'accepter, puis pas penser que c'est pas meilleur ou moins bon, c'est juste différent, tu sais.
Moi, je me rappelle les premières personnes, la première personne de couleur noire que j'ai vue à Mistassini à l'époque. Tu sais, on était un peu étonnés. Mais aujourd'hui, on s'en surprend pas. Ouais, puis c'est correct, ça fait partie de la diversité, comme tu dis. Ceinture fléchée, ça n'a pas rien qu'une couleur. Fait qu'à un moment donné, il faut ouvrir les esprits.
Ceinture fléchée qui viennent des Autochtones, d'ailleurs.
Voilà. Mm-hmm. Et puis, tu sais, on a besoin de main-d'œuvre. On a de la misère à en trouver. Il y a 2500 emplois qui sont offerts là, depuis quelques jours à peine. Ils font une offensive. Les gens, il va falloir qu'ils comblent ces emplois-là. Puis qu'ils soient capables de dire, bon... J'ai pas d'emploi, mais je vais accepter peut-être un salaire de 14, 15, 16 pièces de l'heure. C'est ça qui a fait défaut un petit peu du côté de Sartundra. Les gens, ils ont levé le nez là-dessus. Ils disent, bon, c'est aussi bien de rester comme... Là, Mané, tu restes un peu étonné. Tu sais, le plaisir du travail, là, ou l'accomplissement du travail. Mon père me disait, quand j'étais plus jeune, que le travail, c'était le trésor de la vie. Je dis, mais pourquoi tu me... C'est quoi le trésor de la vie? Il dit, tu as une raison pour te lever le matin, puis tu as une raison pour être couché le soir parce que tu as travaillé dans ta journée. Tu sais, tu es occupé dans ta journée. Fait que je pense que c'est... Puis là, je diverge un peu du sujet.
Non, mais c'est le sentiment de s'accomplir aussi.
C'est ça. Puis, puis moi, je suis bien d'accord, puis je trouve que Normandin, puis s'il y en a d'autres qui peuvent, à l'instar de Normandin, de suivre la même trajectoire par rapport à une politique d'accueil, bravo, parce que l'accueil fait toute la différence. Tu sais, tu voyages un peu, puis tu arrives dans un autre pays ou n'importe quoi, puis tu es mal accueilli, tu y retourneras peut-être pas. Je parle pas des autorités. Tu arrives dans un petit café, tu arrives dans un petit auberge, la personne est accueillante. Elle peut être, je sais pas moi, de Kiev, ou ben non, de Tombouctou, ou de Madagascar. Ou tu sais, il y a une richesse dans chaque fois qu'on découvre une personne, une ville, un village, il y a de la richesse à découvrir.
Tu sais, tu as voyagé aussi beaucoup, puis... Je pense que les endroits où on a le plus le goût d'envoyer les gens, c'est les endroits où on était le mieux accueillis, et non pas les plus beaux endroits.
Non, exact.
Parce que tu parlais de Kiev, moi je suis allé, puis j'enverrais personne là-bas. Là. Les Ukrainiens sont pas super chaleureux. Mais je t'enverrais n'importe qui en Arménie, parce que là, bon, on a l'impression
J'ai pris
que...
Kiev comme ça.
Oui, mais c'est un hasard, là, mais moi je suis allé.
Tu es allé partout, toi?
Moins que toi, je pense. Il faudrait se comparer à un moment donné. Hey, bulle immobilière dans la région, au niveau du prix des maisons, écoute, c'est assez l'enfer. Ouais. Tu veux vendre ta maison et tu es capable de d'habitude, il faut que tu négocies et tu essaies de pas trop diminuer. Là, tu es capable d'aller chercher 10-15 000 de plus que le prix que tu l'as demandé à cause de la surenchère.
C'est particulier. C'est assez particulier. Puis, est-ce que ça s'explique par le fait que les gens des grandes villes comme Québec, Montréal ou les grandes agglomérations reviennent dans les plus petites régions? Moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça, dans le sens que on le voit de plus en plus, les gens, ils veulent être à l'extérieur du trafic. Tu sais, quand tu restes à Montréal, tu travailles à Montréal, puis tu restes à Saint-Bruno, puis tu prends le kid le matin à 6 heures, puis tu roules 1 heure pour aller pour porter ça à garde. Tu sais, c'est pas des... Nous autres, dans nos petits milieux, tu sais, le soir, tu arrives chez toi, la famille est là, comment dirais-je, l'environnement est accueillant. Je pense que c'est ça qui contribue au fait que les maisons, maintenant, ils se vendent. Écoute bien, là, tu iras à Vancouver, t'acheter une maison, tu vas voir que tu tombes dans un autre ballgame.
Non, ça
mais ici, il y a eu une augmentation qui est surprenante. Même les agents d'immeubles, ils sont étonnés. Ils vendent ça 15 000 puis 20 000 de plus qu'ils pensaient. Bien, ça veut dire qu'on est prêt peut-être à avoir des gens qui vont venir s'installer dans nos régions dites périphériques.
C'est peut-être bon aussi pour le patrimoine architectural, dans le sens où on va plus acheter des maisons sans construire des nouvelles, je sais pas, tu sais.
Peut-être.
Non, mais dans le sens où... Moi, j'ai amené cette mode-là d'avoir une maison neuve quand il y a plein de bâtiments extraordinaires à rénover qui sont là, qui font partie du patrimoine. Oui. Tu sais, moi, quand je regarde, mettons, Baie-Saint-Paul par rapport à Chicoutimi, on regarde des photos du début du 20e siècle, ces deux villes magnifiques. On regarde aujourd'hui, il y en a une qui est plus belle que l'autre parce qu'on a fait survivre ce patrimoine architectural-là.
Tu as tout à fait raison. Puis je regardais, il y a quelque chose qui est sorti dans le Nouvel Hebdo il y a à peu près au début du mois en disant que les prévisions sur la population, mais ce n'est pas les statistiques, mais c'est une projection sur la population. On dit qu'au lac Saint-Jean, il va y avoir 90 personnes, incluant Master H 94, incluant la réserve là-bas, que les gens, ils pourraient... une augmentation de 94 personnes, je vais y arriver, et la plupart vont être dans les villages. Péribonka, Saint-Jean-d'Arc, Albanel, puis Saint-Eugène.
Wow.
Et une diminution de la ville-centre de Delbeau qui va approcher 14 000. Quand on était à la fusion, on était près de 15 000. Mm-hmm. Donc, il y a une diminution dans les villes, puis un retour vers. Exemple, si tu travailles à Delbeau-Mistassini, tu peux très bien rester à Saint-Jean-d'Arc. Bien, quelques minutes d'automobile.
Moi, je travaille à Delbeau-Mistassini, puis à Jonquière, j'habite à Saint-Gédéon.
Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, les problèmes de transport, c'est plus ça. Anciennement,
surtout en région, là, parce que...
Hey, avant ça, là, il y avait 3-4 postes de gaz dans chaque petit village. Les tanks de gaz, là, tu faisais 10-12 000 au galon à l'époque. Aujourd'hui, là, tu te rends à Québec avec la même cargaison d'essence ou d'électricité ou quoi que ce soit. Ça veut dire que les moyens de transport sont plus efficaces, les routes sont faciles, puis quelques minutes sur la route, ça te donne le temps de te dégager.
Non, attends. Moi, partir de Saint-Gédéon, m'en venir ici, ça me prend une heure.
Oui.
Là, elle habite plus là, mais quand ma sœur habitait à Montréal, elle habitait à 18 km de son travail, ça lui prenait une heure et quart.
Voilà. C'est ça toute la différence. Fait que je pense que tout ça, la bulle immobilière, le retour en région... on est dans un changement d'époque, on s'en rend compte. Ouais. On change, on est en train de... Il y a quelque chose qui change.
Hey, on ne sauvera pas de la pandémie.
Ouais.
plan de vaccination est arrivé. On sent que les vaccins commencent à arriver. Là, on va vacciner 85 ans et plus. Et puis, on sent qu'il y a des vaccins qui arrivent. Le système de réservation a l'air de bien fonctionner. 24 heures après la mise en service, c'était déjà rempli. Donc, les gens ont l'air de vouloir se faire vacciner aussi. Comment tu t'analyses le plan de vaccination du gouvernement provincial?
Bien, finalement, il est en place. C'est ça qu'on souhaitait à tout le monde.
Bien, c'était d'avoir les vaccins qui étaient compliqués.
Exactement. Je sais que ça a brassé sur la colline parlementaire à Ottawa. On va-tu avoir les vaccins? On n'aura pas les vaccins, etc. Moi, j'ai l'impression que tout va arriver à point. Le nombre de vaccins, on les voit rentrer. Ce matin, AstraZeneca, je prononce peut-être mal. On sait que Johnson & Johnson vont avoir... Fait qu'à un moment donné, je pense que tout va se mettre en place. Maintenant, l'efficacité du système, tu sais, c'est la compagnie Trimoz. C'est le fun qu'on en parle. Trimoz, c'est une petite compagnie sur la rue Sacré-Cœur, Alma, qui ont inventé les systèmes de réservation quand il y a eu H1N1. C'est Maria Chapdelaine qui avait demandé de trouver un système. Ils ont fait Clic Santé. Puis quand tu veux faire un prélèvement, une prise de sang, tu vas sur Clic Santé, avec ton code postal, tu trouves tout de suite. Il y a eu peut-être quelques petits ratés sur des codes postaux, mais je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Il y a un ajustement. Maintenant, pour les gens les plus âgés, et ça s'en va en descendant, moi, je vais l'avoir avant toi.
Oui, je pense que oui. Quelques semaines.
Quelques semaines. Et puis, les gens, ils commencent à être soulagés moralement un petit peu de voir que là, on commence à avoir une espèce de petite armure pour nous protéger de ce moseuse de virus-là qu'on ne voit pas passer.
Si on peut passer la semaine de relâche sans qu'il y ait une recrudescence,
ça,
là,
c'est inquiétant.
Je pense qu'on va avoir un bel été. Là.
Moi, je le crois. Puis je pense que les gens sont de plus en plus volontaires pour. En fait, ils sont d'accord de plus en plus à se faire vacciner. Tu sais, au début, le monde dit
une augmentation de 15% de la volonté des gens de se faire vacciner entre le début et maintenant. Puis je pense que c'est normal. Au début, que les gens aient des craintes et des questions, je pense pas que c'est anormal.
S'il y avait eu zéro décès, puis que les hôpitaux étaient parfaits, le monde disait, pourquoi me faire vacciner? Mais là, on est en face de chiffres. Il y a encore des gens qui ne croient pas que c'est la pandémie qui fait ça, mais ça, on peut pas changer leur état d'esprit. Mais moi, on était inquiets depuis un an de toute cette chose-là. Tu sais, on est confinés dans nos maisons, on ne peut pas trop socialiser avec les uns et les autres. On a hâte de revenir un petit peu à la normale. Puis le vaccin, c'est comme le début de l'histoire. Là. C'est comme si on embarquait dans le grand toboggan puis qu'on commence à partir. Moi j'ai hâte, je suis volontaire de me faire vacciner parce qu'il y a trop de décès qu'on constate, même ici dans notre petit milieu de Delbeau-Mistassini, on en voit.
Ben oui, non, c'est clair. Après tout ça, ça va être quoi, selon toi, la problématique majeure post-pandémie? Puisque j'entendais hier le gouvernement parler beaucoup de la relance économique, puis je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que la relance économique va se faire d'elle-même justement par le besoin des gens de retrouver une vie normale. Mais c'est le côté, moi, sur la santé mentale. On le voit beaucoup. Moi, je travaille avec des jeunes. Le niveau d'anxiété chez les jeunes, c'est difficile. Tu réalises qu'il y a des jeunes, là, qui, ça fait un an qu'ils sont au cégep, là, puis qui n'ont jamais mis les pieds dans leur cégep, puis sont juste en ligne. Puis c'est une période tellement importante au niveau de la socialisation. Ouais. J'espère qu'on ne parlera pas dans 20 ans de la génération COVID là, qui va avoir vécu des troubles à cause de ça. Je ne sais pas.
Moi, Pierre, au début, là, quand tout ça a commencé au mois de mars, en tout cas, quand on a commencé l'année passée à en parler, moi, l'histoire de l'aspect mental, ça ne m'a pas sauté.
Moi non plus.
À vrai dire, au début, je n'ai pas vraiment pensé à ça. Mais lorsque on est nous-mêmes confinés, on se rend compte, tu sais, avec ta conjointe, il y a juste ça. Là, tu peux pas. Moi, j'ai ma fille qui est à l'extérieur aux études, puis qui est confinée aussi, puis qui fait son université à partir de son computer ou de son ordinateur. Et est-ce que ça va laisser des traces irrémédiablement? Il va rester quelque chose de ça? Comment qu'on va repartir la machine, etc., ça, je ne le sais pas. Mais il y a une chose certaine, le système d'éducation et le système de santé va être remis en question. Tu sais, il y a eu le plan Marshall après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il devrait... On recommence.
New Deal.
Oui. Ouais. On est rendu là parce que, tu le sais, c'est une formule populaire. Il y a eu l'avant-pandémie puis il va y avoir l'après-pandémie. Ouais. C'est sûr qu'on va se remettre de quelque chose. Puis c'est comme... se remettre d'une cuite, là, tu restes étourdi encore un certain
Surtout
temps.
À un certain âge.
Oui. Ça n'en prend moins, mais ça prend plus.
Ça n'en prend moins, mais ça prend plus de temps.
Ça prend plus. C'est ça. Mais pour ce qui est de ta question par rapport à l'état mental, là, c'est vrai que c'est sous-estimé. On ne se rend pas compte qu'est-ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est particulier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des écoles, c'est-à-dire des équipes de psychologues. Comment est-ce qu'ils vont faire pour
déjà
que les gens...
Déjà qu'on en manque de psychologues.
Peut-être que le beau temps... Peut-être que le fait de retrouver une certaine
liberté. Il y a une réalité aussi. Là. Mettons, toi, tu es chez toi avec ta conjointe, c'est la même chose chez nous. Mais moi, je pense beaucoup aux gens seuls.
Oh, mon
Dieu. Ça doit être très difficile.
Puis tu sais, la pandémie, là, juste une petite parenthèse, c'est que les gens qui sont morts seuls, sans pouvoir tenir la main de leurs proches, là,
atroce.
On se rend pas compte. De... Puis, tu sais, moi, je connais bien le monde funéraire, tu le sais, puis les gens le savent aussi. C'est là que les gens se sont aperçus de l'importance du rituel funéraire. Hein?
Oui.
Au début, on dit, ah, mais aujourd'hui, tu dis, coudonc, on n'a pas eu le temps d'aller au salon, on n'a pas vu la personne. Fait que, tu sais, c'est sur plusieurs aspects. C'est... La pandémie, c'est une espèce de tsunami, tu sais. Ça a... On a tous été inondés. Ça a rentré partout, dans tous les domaines. Il n'y a pas une petite case qui n'a pas été infiltrée. C'est particulier. On va rester...
On va en parler longtemps.
Longtemps. On va pouvoir écrire des livres là-dessus.
Oui, ça va déjà commencer.
Trump et la pandémie.
Hey, on se retrouve tout de suite après la pause. On est de retour dans quelques instants. À tout de suite.
Ça vient de qui, tous ces messages-là?
Hein?
Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose?
Mais voyons, de quoi tu parles?
Hey! Prends-moi pas pour un épais.
Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention.
Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK?
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi certaines personnes sont-elles vaccinées en priorité contre la COVID-19?
La vaccination est priorisée en fonction du risque de développer des complications et de décéder de la COVID-19, c'est-à-dire les personnes résidant en CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidence privée pour aînés et celles de 70 ans et plus. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas.
Hein?
Bien de même, en plus.
Ben voyons donc, je...
Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu sais que je peux pas te faire
confiance. T'essayes toujours de me provoquer.
Mon amour, je...
Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau pis tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
Écoute-moi, mec, c'est fini, ça.
Ça va bien?
Ici, on travaille en français.
Moi, je travaille en français.
Moi, je travaille en français.
Moi, je travaille en français.
On est de retour. J'espère que vous avez eu une belle pause, toujours avec Richard Hébert pour parler de l'actualité. Parlons maintenant de l'aide médicale à mourir. On a eu... c'est un enjeu important. Ouais. Le Québec a été vraiment une figure de proue pour amener
Madame
ça...
Madame Véronique Yvon.
Oui, Madame Véronique Yvon. Ouais. Maintenant, bon, on a renvoyé la balle à Ottawa, on n'a pas trop le choix. Là, ça va faire... On est en train de demander le quatrième report de date pour changer la loi. Mais c'est complexe. Moi, j'ai rien contre les reports, dans le sens j'aime mieux qu'on fasse ça bien qu'on se dépêche puis qu'après ça, ça crée des problèmes.
Proche,
là, c'est allé au Sénat, c'est revenu, les modifications. Bon, on s'est trouvé un allié aussi avec le Bloc québécois parce qu'il faut rappeler que c'est un gouvernement minoritaire, donc ça prend un allié pour accepter.
Ouais.
Mais comme c'est très bien accepté au Québec, là, l'idée de l'aide médicale à mourir, que le Bloc appuie, je pense que c'était une alliance logique.
Ouais.
Bon, moi, j'ai été bien surpris quand on a écarté l'idée de quelqu'un qui a une maladie dégénérative puis qui est encore là, mais qui ne pourra pas donner son accord quand il va commencer à être parti, là, tu sais, c'est atteint de démence, Alzheimer, tout ça. Moi, j'ai un petit problème avec ça parce que pour avoir vécu des choses semblables puis avoir un ami qui est là-dedans en ce moment, lui, il aurait bien aimé ça que son père puisse prendre la décision quand il avait encore toute sa tête, parce qu'en ce moment, il ne peut plus rien faire, puis c'est plus agréable pour personne. Là. Je ne sais pas. C'est quoi ta perception de ça?
C'est un sujet extrêmement complexe et
très délicat.
Parce qu'on parle de la vie et la mort de quelqu'un. J'entendais aussi quelqu'un qui dit « Moi, j'ai le mal de vivre, puis j'aimerais partir, mais ils ne veulent pas. » Le cas que tu évoques, à savoir la personne était prête, mais là, à cause d'une certaine démence qui s'installe et puis capable de prendre des décisions. Je pense que malheureusement, on ne sera jamais capable d'avoir une loi parfaite.
Absolument.
Il va avoir malheureusement des oubliés ou des manquements à l'intérieur de... Le fait qu'on soit rendu là à permettre aux gens de décider de leur propre gré de pouvoir quitter leur enveloppe charnelle puis de se ramasser ailleurs, je trouve que c'est une belle évolution pour une société. C'est particulier, par exemple, parce qu'on voit ce qui se passe en Hollande puis en Belgique, entre autres, où là, un jeune de 13 ans ou 14 ans peut décider. C'est pas quelque chose, dirais-je...
C'est pas quelque chose de facile. Soit
Pardon?
Il faut que ça soit balisé, là.
Ah, écoute, ouais. Sinon, on va...
Hein, non, tu chiens. Une personne a un mal de vivre une fin de semaine, puis...
On l'enlève. Ah ouais. Non. La vie a tellement de... Ça a de la valeur, la vie. C'est parce que quand on est sur le point de la perte, c'est là qu'on se rend compte. Mais par contre, il y a des gens qui vivent des souffrances qui ne sont pas vivables. Tu peux pas... Je veux dire, si tu as des migraines pendant 72 heures là, d'affilée, c'est quelque chose. Mais quand ça fait 90 mois que tu as mal à la tête, un moment donné, tu te dis, gars, moi, j'en peux plus. Ouais. Fait que je pense que ce soit reporté, ça prouve qu'il y a du sérieux dans l'histoire, comme tu le fais remarquer. Il y a toujours un peu de politique qui joue un peu là-dedans. Mais il reste quand même que... Il faut que la décision soit prise dans le meilleur intérêt de tous, mais malheureusement, il va y avoir, je le pense, encore des failles dans l'histoire. On ne pourra pas arriver avec une affaire parfaite qui va cadrer. Ça va être très, très difficile parce qu'il y aura toujours une exception.
Oui, je suis d'accord. Moi, je dois noter quelque chose. Moi, j'étais un anti-Sénat. Ça fait longtemps que j'aurais mis la clé là-dedans, là, pour plein de raisons. Pour une des rares fois, je trouve qu'ils ont fait un travail sérieux, qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont fait des propositions intéressantes. Là, faut reconnaître aussi quand on peut avoir tort ou on peut. Ben, je suis pas plus pour le garder là, mais je trouve qu'ils ont fait un travail, que les sénateurs ont fait un beau travail.
Ce que je voudrais dire, c'est que tu sais, la chambre politique ou la joute politique à la Chambre des communes, parce qu'on parle de ce gouvernement-là, tu sais, ça c'est des tractations, c'est des coups de gueule, c'est. Des fois, ils vont voter quelque chose qu'ils sont absolument contre, mais c'est pour faire un peu donner de la misère à l'autre bord. Le Sénat ou une autre institution est là pour avoir un peu plus de recul, éviter un petit peu plus la partisanerie. Bravo pour un Sénat qui n'est pas partisan, ouais. Qui n'a pas de couleur. Ça, je trouve ça bien, bien correct. Parce que souvent, tu fais face à des abnégations ou des aberrations, pardon, là, qui sont incroyables.
Ouais, ça manque de légitimité quand même.
Oui, mais tu sais, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, la Chambre haute, les systèmes politiques que tu connais sûrement mieux que moi sont pas parfaits non plus.
Aucun.
Mais celui dans lequel on évolue, je pense que le Sénat, comme tu l'as dit, a un droit de regard, un droit de sagesse, et je pense qu'il y a moins de partisanerie dans la chambre rouge que dans la Chambre verte. C'est deux mondes complètement différents. Ouais. Moi, pour avoir croisé certains sénateurs, ils sont dans une autre histoire. Il y a un peu de partisanerie pareil. Mais c'est un sujet extrêmement délicat parce que moi, quand j'étais plus jeune, puis je faisais mes études pour devenir thanatopracteur, ce sujet-là, en 75-76, c'était déjà sur la table.
Ça commençait. C'est les Suisses qui ont accepté ça en premier, je pense.
C'était particulier de dire on va dessiner de la mort des uns puis des autres. Moi, en 76, ça fait plus de 40 ans.
On était encore assez judéo-chrétien à cette époque-là.
C'était une question osée. Je me rappelle, en cours, on l'avait posée, mais on avait discuté de cette chose-là, mais... Là, on allait un peu, on disait, ouais, mais si on était dans le temps des nazis, on dirait que les juifs, bon, il faut les éliminer.
Ben
parce
oui,
que
c'est ça.
C'est pas facile. Mais quand tu as quelqu'un de malade dans ta famille qui souffre l'enfer, tu souhaites souvent, tu sais, quand tu dis, il faudrait qu'il parte, il faudrait le laisser partir. Puis en même temps, si tu veux pas partir, c'est.
Non, mais ça reste dur. Moi, je me rappelle de ma mère, là, puis je veux dire, là, mettons le dernier mois, là, ben ça a été juste un mois, tu sais. Ça n'a pas été 5-10 ans, là. Il y a des gens là, qui vivent avec des maladies très longtemps, mais ce mois-là était interminable, puis là, rendu là, on savait qu'elle allait partir. Fait qu'on. Pas que je dis qu'on avait hâte, on avait hâte qu'elle soit libérée de sa souffrance. Ouais. On n'avait pas hâte qu'elle soit partie, mais c'est ça. Puis quand c'est. Puis moi, là, c'était un mois, mais imagine quand c'est des années, là. Ça doit être...
Mais qu'une société réfléchisse et se donne le droit d'aller jusque-là, c'est le signe d'évolution d'une société. Mm. Et c'est sûr que, je vais te donner un exemple, les animaux dans le règne animal, là, ils ne choisissent pas le suicide.
Oui.
T'as-tu déjà entendu parler qu'un éléphant s'est suicidé?
Moi, j'ai déjà vu un chien se suicider.
Ah ouais?
Mais ben, en tout cas, je l'ai vu de mes yeux vus, là. À Kiev encore, écoute, les lumières rouges, les autos arrêtent. Puis là, le chien qui est sur le bord-là, il attendait comme le passage piéton, s'est levé, a avancé, s'est assis en avant des autos.
Jusqu'à temps qu'il se fasse heurter.
Jusqu'au temps que la lumière change, la première auto a fait le tour, elle l'a vu, mais à un moment donné, il en arrivait un, puis... Et voilà.
Bon, alors, tu viens de défaire ma théorie.
Pas grave, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle.
Mais tu sais, c'est dans le règne animal, je veux dire, on est intelligent, supposément, puis on est capable de prendre certaines décisions, mais celle-là, c'est... C'est un signe assez...
Mais moi, en tout cas, il faut que ça reste que ce soit la personne qui puisse décider puis qu'on ne puisse pas décider pour les autres. Ça, c'est important.
Parce que là,
il y aura des dérives possibles.
Oui. C'est pas dangereux.
On ne veut pas ça. On veut pas ça. Les géants du web.
Non,
mais là, on sait, le gouvernement fédéral travaille fort là-dessus, ou du moins, ils nous disent qu'ils travaillent fort là-dessus. Là, on n'a pas encore vu de résultats concrets. Mais on s'est allié avec l'Australie pour regarder ce qu'ils font là-bas, parce que l'Australie a donné un bon coup de barre, assez que ça a fait peur à Facebook, qui a suspendu les nouvelles, puis là, ça crée un conflit. En fait, moi, je pense que le coup de mute de Facebook a juste donné raison au gouvernement australien. Là. Ces géants-là ont trop de pouvoir. Il faut faire quelque chose. Comment tu vois la solution, toi, pour l'avenir des médias et puis ces géants du web-là qui sont partout dans nos vies maintenant? Là?
Pierre, c'est une excellente question parce que lorsque j'étais à Ottawa, ce sujet-là m'a particulièrement touché parce que je venais d'une région où il y a beaucoup de médias. Mm-hmm. Puis avec Louis Tremblay, je me souviens, puis Mme Saint-Onge, tous ces gens-là, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. J'ai participé à faire un petit peu bouger les choses parce que lorsqu'on était en caucus national, souvent je revenais à la tâche en disant « Regardez, là, il faut qu'on fasse quelque chose. » Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai changé l'histoire parce que ce que les revenus de publicité que Facebook et l'autre Google prenaient, c'était indécent. Tu as vu, évidemment, les profits descendre, puis le bon. Mais il y avait comme une forme de ménage qui devait se faire. Je veux dire, malheureusement, la nature étant comme ceci, ils ont décidé d'une certaine manière que le modèle changeait. Là, aujourd'hui, je regarde la courbe d'information du journal Le Quotidien. Mmh. Les affaires vont bien. Ouais. Ils sont devenus, eux aussi, sur le web. Et on peut les consulter assez facilement. Il n'y a plus la version papier, sauf le samedi, si je me trompe. Je parle évidemment de la région ici. Puis ailleurs, on voit des exemples. Maintenant, je pense que ce que l'Australie a fait est en train de démontrer que si un gouvernement décide de quelque chose, il y a de la force, bien, il est capable de faire bouger.
Il faut.
Puis le Canada devrait ou devra, je pense que j'ai entendu Stephen Guilbeault, le ministre du Patrimoine, disant qu'il trouvait l'exemple intéressant, puis pour travailler dans le même sens qu'eux autres, parce que si l'Australie a réussi à le faire, le Canada peut le faire aussi. La France a manqué son coup au début, tu te rappelles, qu'ils ont fait quelque chose?
Mais tu penses pas que la difficulté canadienne, quand on compare avec l'Australie, c'est la position géopolitique? Parce que tous ces géants-là ont leur siège social aux États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à embarquer dans ce genre de mesures-là qui limitent leurs entreprises qui sont les plus riches et fructueuses de la planète en ce moment. Là.
Oui.
Est-ce que ça peut changer le rapport, en fait?
J'abonde dans ton sens que c'est géopolitiquement parlant, il y a une différence.
Ouais.
Il y a une différence parce qu'à cause de la proximité des géants du web. Mais l'exemple que l'Australie, encore une fois, nous a donné démontre qu'ils ont été capables de dire « Regarde, on ne fera pas ça ». Est-ce que le gouvernement américain pourrait faire des pressions sur le gouvernement canadien pour dire « Vous n'avez pas le droit d'empêcher » Ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin non plus. Mais il faut laisser de la place aux médias qui nous entourent de faire leur job. Ouais. Parce que si on s'abreuve rien que sur Facebook, et etc., on peut avoir des problèmes. Moi, je me souviens une fois de m'être levé en chambre et dire « Moi, récemment, j'ai consulté Facebook et sur ma page, je me suis aperçu qu'on avait découvert un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale au Lac-Saint-Jean. Mais vous voulez même dire par où ce qui est passé, probablement. Ouais. » Mais il y a des gens qui disent « Mais oui, ils ont trouvé un sous-marin de la Deuxième Guerre. C'est impossible.
Ouais. »
Quand tu es un gars du lac, tu dis « Ça se peut pas.
Ça se peut pas.
Ça se peut pas.
Ça passe pas.
Ça passe pas. » Mais il y a des gens qui ont dit « Hé, hey, c'est arrivé. J'ai vu des affaires qui n'ont pas plus de bon sens. »
Bien, c'est la problématique. C'est que si à un moment donné, on affaiblit les médias qui sont soumis au code de déontologie journalistique, et puis, ils sont plus capables de produire de la nouvelle, bien là, on ouvre la porte à avoir que des fausses nouvelles ou des nouvelles plus ou moins valables.
Voilà. Puis quand, des fois, tu vas voir sur ta page Facebook, puis tu vas voir c'est qui la source, là. Des fois, tu dis, c'est quoi ce nom-là? Puis t'arrives, tu t'aperçois que c'est rien ou c'est quelqu'un qui a parti un blog dans son sous-sol. Fait que l'indépendance journalistique, moi, j'y crois. Je pense que les médias ont un rôle important à jouer dans notre société. C'est eux qui nous donnent, d'une certaine manière, l'éclairage, puis... Après ça, la nouvelle, un coup qu'ils nous l'ont remis, là, on en fait ce qu'on veut. On tire notre opinion à partir. Moi, que je consulte les nouvelles, je dis « Oh ben là, franchement, celle-là, je suis pas d'accord. » J'ai le droit de pas être d'accord, mais au moins, j'ai un point de vue extérieur du mien.
Ouais.
Puis ça, je me lève le matin, puis je suis avide de savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille. Ma blonde, moi, dit, c'est qui s'est passé aujourd'hui. Donc, Facebook puis les nouveaux médias sociaux, c'est toute une révolution. Là.
Bien, c'est une révolution, puis ce qui devient complexe, parce que même dans les journaux traditionnels, on laisse de plus en plus de place à l'opinion, à la chronique, à l'éditorial, et de moins en moins de place aux nouvelles. Là.
Oui.
Et là, ça, si tu multiplies ça dans un gros bassin avec les fausses nouvelles, les trucs drôles, les photos de chats, puis les statuts d'amis qui nous montrent ce qu'ils ont mangé pour souper, ça fait un océan d'informations. Puis là, ben, tu scrolles à l'infini, tu sais pas ce que tu cherches, mais finalement, tu cherches rien parce que tu t'informes juste pas au bon endroit.
Puis tu fais juste regarder le dessus, tu vas pas au fond.
Oui.
Puis j'entendais un reportage hier qui disait les plus jeunes journalistes se servent beaucoup des médias sociaux.
Absolument.
Les plus vieux s'en servent moins. Mais invariablement, à un moment donné, il y a une source qui... Il faut aller sur Facebook pour voir si... Tu sais, aujourd'hui, je me rappelle les affaires. C'est qui ce gars-là? Tu vas sur Facebook, tu mets son nom, puis là, tu t'aperçois. Tiens, il était pas malade. Ben non, il est au Mexique avec une corona dans les mains, puis... Fait que, tu sais, c'est un moyen d'information. Faire bien attention de mettre ce qu'on met là-dessus.
Donc là, moi, j'ai monté un cours de 45 heures sur les réseaux sociaux, puis pas pour apprendre à s'en servir, juste pour réfléchir sociologiquement. Tu sais qu'aujourd'hui, un employeur, là, il va bien plus se fier sur ta page Facebook que sur ton curriculum vitae. Là.
Oui.
Non,
là, je suis convaincu de ce que tu dis là.
Non.
Parce que je l'ai vu de mes yeux vus.
Oui.
Directeur général dit, c'est qui celui-là? On va voir. Oh, mon Dieu, tu vois des choses.
Oui.
Puis là, à part ça, tu en tires une certaine conclusion. Là.
Non, puis ça va être... c'est le danger, c'est les algorithmes, parce que là, on est capable de savoir pour qui tu vas voter, qu'est-ce que tu agites, comment... Parce que on a fait plein de tests à travers mes classes, et c'est fascinant. On se doute même pas de la force de ces algorithmes-là. Là, on n'a pas le temps parce qu'on est en nombre, mais je pourrais te compter des expériences qu'on a faites. C'est troublant. Troublant. Bien, là, je t'amène sur d'autres choses. Oui.
Que tu étais intéressant. J'aimerais ça. Aller à ton cours.
Mesures pour les voyageurs qui sont de retour.
Ouais.
Situation particulière parce que, sans dire que c'était une urgence nationale, à un moment donné, on a vu qu'il y avait une certaine problématique, des gens qui partaient, qui revenaient. À un moment donné, des gens, il faut même empocher de l'argent. On a réglé ça rapidement. Il y avait des trous, etc.
Ouais.
Là, on nécessitait des mesures strictes. Là, on a des mesures strictes. Là, les mesures strictes ne fonctionnent pas pour... Des raisons d'attente au téléphone, des raisons... Là, il y a eu des cas d'agression sexuelle en plus. Là, ça devient compliqué, tout ce dossier-là. J'ai l'impression qu'on aurait le goût d'effacer tout ça et de repartir un peu. Là.
Ouais.
Mais sauf qu'une fois qu'on a commencé, ça devient très complexe. Puis en même temps, les gens étaient avertis. Là. Si tu voyages, c'est ta responsabilité.
Oui.
Les gens le savaient. Moi, ils me font pas pleurer, là, les snowbirds qui font « C'est compliqué, revenir! » Ben oui, mais on t'avait averti, là, c'est de faire le choix. Là,
ça.
Mais il reste que souvent, le gouvernement devrait être un facilitateur et non pas un...
C'est là qu'on s'aperçoit de la lourdeur d'un gouvernement.
Absolument.
D'une machine. C'est... Écoute, au début de mars l'an passé, moi, j'étais à l'extérieur du pays aussi, puis je suis passé le 12 de mars, puis ça a été installé le 13, si je me rappelle, ou dans ces jours-là. Je suis passé comme on passe à la poste, là. Ça a été aussi rapide que ça. Il n'y a pas eu de mesure de contrôle. On dirait que les mesures viennent après que le virus y est rentré. On le sait que l'année passée, au retour de la relâche, là, c'est là qu'on a vu une explosion. Parce que les mesures n'ont pas été assez rapides. C'est dur à faire bouger l'histoire. La frontière avec les États-Unis, les échanges commerciaux, etc. Ça semble plus facile pour le citoyen ou la personne dans son salon qui écoute les nouvelles le soir. Coudon, le gouvernement, ils ont juste à faire ça. Ah ouais.
Oui,
là, à ceux qui installent des mesures puis qui sont réclamés à grand cri par l'opposition, exemple. Genre, ce matin, là, j'entendais une nouvelle que le Parti conservateur, il faut arrêter toutes les mesures à cause de ces fameuses agressions qu'il y a eu et à Montréal et à Toronto. C'est très, très regrettable ce qui s'est passé, mais à un moment donné, quand la gratte passe, tu peux arracher une coupe de morceaux de trottoir en cours de route. Là. Puis c'est pas souhaitable, mais je veux dire... Il faut installer un
paquet. C'est pas à cause de la mesure que ces événements-là sont arrivés.
Ben non.
Il faut pas faire des liens. Là.
Ben non. Puis moi, je pense.
Agresseur.
Je pense que souvent, il y a des partis politiques d'opposition qui jouent de la petite politique là-dessus parce que ça fait plaisir à leurs électorats, etc. Mais il reste quand même que ces mesures-là sont nécessaires. Puis moi, je le crois. Tu sais, d'abord, on est tous été un petit peu délinquants. Je pense la société en général, quand c'est arrivé dans le temps des fêtes ici, on voyait les camions qui se remplissaient de nourriture, de skidou, de trailers, de chiens. Tu disais, où est-ce qu'il va? T'sais? Il va chercher de la lasagne pour 20 personnes. Il n'est pas parti. Il n'y a rien qu'avec sa blonde. Il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que les gens ont été un petit peu délinquants. À cette heure que les gens réclament des mesures puis que le gouvernement les installe, là, j'ai dit, oh, là! Tu sais, l'histoire d'avoir le droit de réclamer de l'argent.
J'ai jamais content.
Ça n'a pas de bon sens. Hey, va-t'en aux Zimbabwe, ta barouette, ou ben non, va-t'en, en Tanzanie, là, tu vas voir que bon, les troubles mentaux, ils ne s'occupent pas de ça. Les masques, ils mettent en dessous du nez, ça fait pas. On est dans une société beaucoup plus rigide, j'allais dire rigide, mais bien installée. Tu sais, compartimenté. Il y a toujours quelqu'un qui est responsable de...
Avec ses qualités et les faiblesses que ça peut amener...
Il n'y a rien de parfait.
Absolument.
Mais enfin, les gouvernements font leur possible, comme on dit, ils construisent l'avion pendant qu'ils volent. Là.
Ah non, mais moi, c'est toi que tu me dis, la personne écoute la TV, pourquoi ils font pas ça le gouvernement? Moi, c'est tout. Ça me fait tellement penser à... Ah, ben là, ben moi, je l'échangerais Sidney Crosby pour Paul Byron, là. Ben oui, oui, mais personne ne ferait cet échange-là, man. Là.
Non.
Les gérants d'estrade.
Il y a certains médias, on ne les nommera pas, là. Il y a certains médias qui encouragent ce genre de réflexion-là.
Quand on parle d'une nouvelle, la première chose qu'on te montre, c'est un vox pop. C'est pas vrai que l'opinion du monde, elle est éclairée et que les gens sont réellement informés. Et quand cette opinion-là devient comme une vérité. Là.
Quand c'est rendu, moi, la première fois, j'avais vu ça aux nouvelles d'une chaîne au Québec, qui parlait de l'émission populaire qui avait passé dans la semaine et en faisait une nouvelle, parce que c'est dans la même station de télévision. Là, ou non, la page du journal dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec Occupation double? » On s'en fout! Ouais, c'est pas ça qui nous intéresse, mais ça fait vendre la copie.
C'est ça. J'ai encore deux nouvelles. Ça va vite, mais je veux te parler de deux affaires.
Oui.
Armée canadienne.
Ouais.
Culture des agressions sexuelles. Là, on a vu l'ancien Jonathan Vance qui a été remplacé, qui a pris sa retraite parce qu'il y avait des allégations. Là, le nouveau, ça fait même pas un mois, il repart pour la même raison. À quand une femme à la tête de l'armée canadienne pour changer la culture misogyne de l'armée?
C'est une bonne question, puis j'y avais pas pensé, mais c'est ça que ça prendrait. Mais parce que la culture masculine de l'armée, c'est masculin, mais pas à peu près. Il y a beaucoup de femmes qui servent dans les forces. Mais cette culture-là, là, l'autre jour, t'as vu, ils ont dit, pour la diversité culturelle, ils sont 10 hommes blancs à la table en disant, on va changer ça. Mais non, mais non, mais non.
Et on l'a vu avec l'histoire du monsieur, là, du monsieur qui était arrêté par la police là, à Montréal, puis que ça, bon, il était là, tout le monde en parle, puis toute l'histoire. Mais on voit un panel, puis là, t'as que des hommes blancs qui parlent. Là, je fais, Dieu, qu'on comprend rien.
Puis tous ces problèmes-là à caractère sexuel, d'abord, ça explose tout partout. Ouais. C'est quand même particulier. Puis en plus, c'est que l'armée, qui représente normalement un modèle de droiture, puis d'efficacité, puis d'exactitude, on dirait qu'ils se permettent...
Hein, dans l'armée, il faut se discipliner.
Ça veut dire que, et l'armée, et n'importe qui, c'est toujours la même histoire pareil. Mm. Tu sais, à la minute que je ne voudrais pas dire de vulgarité, mais on dirait que quand il y a un aspect sexuel là-dedans, on dirait qu'on envoie par là, let's go. J'imagine d'imparter dans l'armée, là, que... Tu sais, tu te rappelles, il y avait eu un procès important ici, à Bagotville. Tu sais, le gars, il tapote un peu, mais tu vois, c'est pas grave. Mais la fille qui se fait tapoter, elle veut pas se faire tapoter.
Mais non, mais c'est ça, la culture du viol. Ouais. C'est pas... Les gens, ils violent pas, là, d'une ruelle, là. On a des vieilles habitudes qui datent d'une autre époque.
Des
mononcles.
Ben oui. Tu sais, mononcles qui donnaient des gros becs baveux à nos cousines, là, puis tu disais, voyons... Non, écoute, mais l'armée vient de manger toute qu'une claque dans cette histoire-là. Puis je trouve que ta suggestion est bonne. J'y avais pas pensé, femme à la tête de l'armée, il y en avait une qui est assez haut gradée. Ouais, peut-être c'est l'occasion de faire
moi,
un étage.
Moi, en tout cas, je ferais un mouvement. Étant l'armée, là, là, notre crédibilité est en jeu. Là, pourquoi on change pas réellement la culture puis on donne pas l'exemple, nous? Parce que...
Puis quand tu es à la tête là, de ces organisations-là, il faut plus blanc que blanc. Hein? Faut pas que... Quand tu as une fonction là, supérieure...
Vu, oui, on l'a vu encore avec le juge hier. En tout cas, je veux pas parler de cette nouvelle-là, mais tu fais comme... Même tes juges, là, en tout cas...
Ça s'est passé pendant qu'il était avocat.
Ouais, je veux te parler d'un dernier sujet, parce que toi, tu es assez vieux pour avoir vu l'homme marcher sur la Lune.
Oui.
As-tu suivi l'intérêt sur notre petit robot qui est allé sur Mars?
Je ne l'ai pas suivi en direct, mais aussitôt j'étais capable de voir les images. Ça m'a fasciné.
C'est fascinant.
C'est impensable. Il a envoyé un véhicule il y a 7 mois. Puis là, avec la précision chirurgicale, t'es arrivé à la bonne place. T'as vu la madame quand t'as parlé? Il s'est déposé en sécurité à sa place. Elle te sentait dans sa voix.
Ils ont tellement travaillé. Puis c'est tellement...
C'est des calculs. C'est fou, là. Puis en plus, t'as remarqué l'histoire du fameux... Le parachute? Il y avait un message écrit dans le parachute.
Ah, non, j'ai pas vu.
Tu sais, une barre, deux barres, une barre, un espace. Ça voulait dire entreprendre des choses risquées, là. C'est ça que ça disait. C'est un message à la... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais tu regarderas, fouille un peu. Hein? Sur le fameux parachute rouge et blanc, il y avait un message d'inscrit. Comme un code barre, si tu veux. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le fait qu'on soit allé sur Mars, ça va nous permettre de comprendre un peu, parce que est-ce que la Terre, c'est par là qu'on s'en va? Parce que finalement, c'était comme une planète qui ressemble à la nôtre. Mm-hmm. Les cours d'eau, ce genre de choses. Écoute, oui, j'ai vu l'homme arriver sur la Lune, puis je me rappelle
Moi, je l'ai pas vu, mais ça m'a
Moi, je me rappelle de Neil Armstrong, il était tard le soir quand il a mis son pied sur la... C'était... On y croyait pas, tu sais. Mais celle-là, c'est encore aussi fascinant. Est-ce qu'un jour, on aura un homme qui va marcher, ou un homme ou une femme? Peu importe, oui, j'allais dire un homme ou une femme.
Ou quelqu'un de non-binaire?
Mais Monsieur Patate, peut-être?
Tu veux parler de patate?
Ah, de patate, oui. Anciennement, monsieur. Ça serait un bon sujet, ça, je trouve.
Ouais, bien, je veux en parler, mais sincèrement, c'est délicat. Je m'informe énormément là-dessus parce que je veux être ouvert puis je veux comprendre. Mais des fois, il y a des cheminements que je suis en train de faire. Je lis énormément là-dessus, mais inquiète-toi pas, on va finir par en parler davantage, mais je veux choisir mes mots, je veux être capable de l'expliquer sans
heurter
de micro-agresser personne.
Tu sais, aujourd'hui, le politically correct, les LGBTQ2, on est rendu dans l'appropriation culturelle, on est rendu de... C'est de plus en plus compliqué dans le sens que... Tu sais, je regarde le fameux spectacle Canada de Robert Lepage, là, qui... On en reparlera parce que c'est très délicat.
Pour dire, là, j'ai vraiment lu beaucoup, réfléchi, puis j'ai changé d'opinion 25 fois parce que les gens ont plein de bons arguments. Ouais. Et je réalise que ces sujets-là, c'est difficile en 2021 d'en jaser parce que la société est trop polarisée. On n'a plus de nuances, on n'a plus de réels débats. Et c'est comme ça, par la pédagogie, qu'on va réussir à amener les gens à changer, évoluer, puis à se comprendre. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un... L'analogie que je fais, là, c'est si, mettons, là, toi, tu décides que ça ne va plus avec ta conjointe, puis tu décides de te séparer, puis là, tu prends le temps, tu réfléchis, tu pèses pour les comptes, et là, un an plus tard, tu as pris ta décision, puis tu y annonces ça. Toi, quand tu y annonces ça, tu t'attends à ce qu'elle ait fait, qu'en 10 secondes, elle fasse le même cheminement que toi,
que ça t'a pris un an.
Ça se peut pas. Puis là, on est, moi, je trouve, là-dedans, en société, des gens ont fait un cheminement, des gens n'ont pas fait, et là, on s'insulte plutôt que s'aider. À avancer ensemble. Moi, je suis pour la tolérance et la nuance et je déteste la polarisation ambiante en ce moment.
Est-ce que c'est causé par le trop grand nombre d'informations ou la quantité d'informations qui circulent? Je sais pas. Écoute, il y a 40 ans, c'était Monsieur Patate.
L'éducation. L'éducation, c'est un secret, mais c'est long. Et en ce moment, il faut que tout aille vite. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un problème. Merci infiniment, M. Richard Hébert. Toujours un plaisir de passer du temps
avec
vous.
C'est réciproque, M. Turcotte.
Merci à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.